Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui restera fidèle à sa tradition en vous rappelant ou en vous apprenant, si vous êtes nouveau venu et bienvenu, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente les petites images qui bougent sur quasiment tous les écrans maintenant. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre émission à un compositeur italien, à vrai dire fort peu connu, et que donc nous allons tenter en 30 minutes chrono, sinon de réhabiliter, du moins de mieux faire connaître, en l'espèce Giovanni Fusco, F-U-S-C-O, compositeur né le 10 octobre 1906 et mort à Rome il y a déjà bien bien longtemps, le 1er juin 1968. Giovanni Fusco était un pianiste, un compositeur, et il débuta, dit ma petite fiche qui ne se trompe jamais, en accompagnant à l'âge de 9 ans des films muets. Et oui, il était né en 1906, donc à 9 ans, 1906 plus je retiens 3, il avait à peu près, il était en 1915, pardon, donc c'était la pleine époque du cinéma muet, et comme sans doute vous ne l'ignorez pas, chers auditeurs de 24 notes secondes, les films n'étaient jamais vraiment muets. Ils avaient toujours au moins un accompagnement au piano. Autant dire que Giovanni Fusco était à bonne école et qu'il l'a poursuivi en étudiant notamment la musique au fameux conservatoire de Santa Cecilia à Rome, quelque part derrière la Piazza del Popolo, où bien des années plus tard étudiera un autre compositeur, lui bien connu, comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Ennio Morricone. Parmi quelques autres. On va être obligé de passer rapidement sur les premières années de la carrière de Giovanni Fusco, commencée cinématographiquement en 1936, pour en arriver à 1960, qui va marquer non pas sa première collaboration, mais certainement un tournant décisif dans une carrière déjà longue, vous l'avez compris, avec un film d'Antonioni intitulé L'Aventura, un film qui réunissait dans les rôles principaux Gabriele Ferzetti, Monica Vitti et, puisque c'était la grande époque, des coproductions franco-italiennes Léa Massari et Dominique Blanchard, un film qui, présenté au Festival de Cannes cette année-là, donc en 1960, recueillit ce qu'on appelle au Festival de Cannes un succès de scandale, c'est-à-dire que le film fut tellement hué qu'il fut connu et du coup il obtint un grand succès public, ce qui laisse quand même songeur sur, dans le bon sens du terme, pardonnez-moi, sur la qualité du public de cette époque, car L'Aventura était un film de plus de 2 heures relativement contemplatif, où Michelo Antonioni ramassait toute sa thématique esthétique et intellectuelle autour d'un grand nom bien connu à l'époque qu'on appelait l'incommunicabilité des êtres. Je vous laisse calculer le nombre de lettres. Et Gabriele Ferzetti et Monica Vitti, dans cette Italie des années 60, à la fois dans le miracle économique et dans le désert, je dirais, sentimental, eh bien, Monica Vitti et Gabriele Ferzetti faisait merveille. On écoute un extrait de cette bande originale signée, vous l'avez compris, Giovanni Fusco, et je reviendrai sur la collaboration entre ces deux-là après, dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la bande originale de L'Aventura, un film avec deux V, un film de Antonioni tourné en 1960, une musique de Giovanni Fusco. Alors je lisais, pendant que vous écoutiez, ma petite fiche qui parle à propos de L'Aventura, mais la remarque vaut pour bien d'autres films d'Antonioni, de lenteur corrosive. Et effectivement, c'est bien de cela qu'il s'agit, installer des plans non pas longs, mais lents, de façon à mieux permettre aux spectateurs de réaliser ce travail d'introspection que un dialogue souvent rare et parcimonieux ne permet pas de faire à l'égard des personnages. Et avec ce film, Antonioni eh bien, trouvait un premier climax dans sa carrière, mais sa carrière elle était déjà longue et elle avait été largement accompagnée par Giovanni Fusco, puisque dès 1948, près de 13 ans avant, celui-ci avait signé la bande originale d'un documentaire tourné par Antonioni, Nettezza Urbana. Il avait aussi signé la bande originale d'autres films de Visconti, et notamment le fameux Chronique d'un amour, tourné en 1950. Ce qui est assez étonnant avec Giovanni Fusco, c'est que dans les années qui suivirent, eh bien, il poursuivit tout à la fois sa collaboration avec Antonioni, nous allons avoir l'occasion d'y revenir, et puis il composa la musique de nombre de péplums, puisque les années 60, ce sont les années d'Antonioni, mais ce sont aussi les années du péplum italien, c'est-à-dire cette forme abattardie de super production américaine au départ. On peut citer Quo Vadis et bien évidemment Ben Hur, qui étaient pour la plupart tournés d'ailleurs en Italie pour des raisons fiscales, et puis les Italiens, après tout, ils étaient les mieux placés pour le faire, et bien se sont mis aussi à cette veine, et pendant les années 50-60, on eut un nombre considérable de films, on va dire à petit budget, disons qu'à mon avis, le budget club de Ben Hur servait à faire match 6 contre les Mongols ou quelque chose de ce genre. Et on va écouter donc un extrait de la bande originale d'un de ces films. Ça s'appelle alors La guerre de Troie, donc c'est pas très bien choisi comme péplum latin, mais ma foi, seul sera, j'espère, qu'au musique, un film de Giorgio Ferroni. C'était peut-être pas forcément son vrai nom, puisqu'il y avait beaucoup de pseudonymes, tournés en 1961. Une musique de Giovanni Fusco dans 24 notes secondes. un extrait de la bande originale de La Guerre de Troie, un péplum franco-italien tourné par Giorgio Feroni en 1961 et qui, vous vous en seriez douté, s'inspire de La Guerre de Troie et tout particulièrement de l'Iliade avec Ménélas, Priam, Paris, Hélène et tous les autres. Je vous laisse remettre tout ça dans l'ordre avec vos souvenirs d'école, simplement pour indiquer que dans ce film, pour une raison un peu curieuse, puisque s'il n'en est rien dans l'Iliade, eh bien c'était Énée qui était mise en avant. Énée interprété par Steve Reeves. Quand je vous le disais qu'on reprenait souvent des noms d'acteurs américains parce que ça faisait mieux dans les péplums comme ailleurs, Steve Reeves, qui était surtout connu pour avoir été quelques années auparavant Monsieur Univers ou Monsieur Culturisme du Monde ou quelque chose de ce genre. Donc un gars qui avait plus de musculature que d'intensité dramatique, dirons-nous. Mais enfin, ce n'était pas vraiment très important dans ces années-là. Et c'est donc Giovanni Fusco, on va avoir l'occasion d'y revenir, puisque nous allons faire un grand écart entre ce film-là et un nouveau film d'Antonioni, puisque après le grand succès de La Ventura, Antonioni put creuser encore son sillon qu'on peut qualifier de déprimant. Il le fit avec La Notte, La Nuit en 1961, et en 1962, ce fut L'Éclipse, dans lequel on retrouvait, comme dans La Notte, Monica Vitti, vraiment l'égérie de Antonioni dans ces années-là. Pourtant, une fille absolument magnifique dont on n'aurait pas supposé qu'elle avait des problèmes d'incommunicabilité et qui se trouvait à côté d'un autre dont on pensait aussi que dans ces années-là, il n'avait pas vraiment de problème d'incommunicabilité. En l'espèce, Alain Delon. Mais oui, Alain Delon, Monica Vitti, le couple glamour de L'Éclipse, tourné en 1962. Un couple glamour pour un film qui ne l'était guère, puisque comme dans beaucoup de films d'Antonioni, on lui en fit le reproche, eh bien, celui-ci racontait l'ennui des classes privilégiées, de ces gens qui vont de fête vide en fête vide. Fellini avait traité la même histoire avec la Dolce Vita, mais pas du tout de la avec Mastroianni bien sûr, mais pas du tout de la même manière. Chez Antonioni, eh bien, il s'agit vraiment d'un cinéma cérébral, mais au sens positif du terme, même si d'aucuns pourrait l'entendre autrement, où les plans sont extrêmement composés pour donner une idée de dépouillement absolu correspondant au vide métaphysique des personnages. Je l'invente au fur et à mesure, j'espère que vous vous en rendez compte. Je n'ai pas de fiche toute écrite devant moi et encore moins de prompteur dans le studio de Divergence FM. Allez, on va écouter un extrait de cette bande originale. Elle est évidemment signée de Giovanni Fusco, L'Éclipse. Alors je vais l'essayer en italien, mais je ne suis pas sûr. L'Éclipse dans 24 notes secondes. Thank you. Ah oui, ça finit un peu brutalement. Une contrebasse, si je ne m'abuse, une musique extrêmement dépouillée. Vous l'aurez entendu et si vous voyez l'éclipse que je vous souhaite, eh bien vous le comprendrez. Le dépouillement presque abstrait de Antonioni avec l'aide de Monica Vitti et Alain Delon, deux acteurs pourtant charismatiques, mais desséchés dans un film qui ne l'était pas moins, mais là encore il s'agit de compliments et qui accompagnait donc la musique de Giovanni Fusco. Alors vraiment, ça va être le mélange des genres ce jour puisque nous allons revenir maintenant au péplum, puisque en 1963, eh bien Steve Reeves, qui n'a jamais joué dans un film d'Antonioni, à ma connaissance, Steve Reeves eh bien, reprenait le rôle d'aîné. Il faut croire que la guerre de Troie avait été un grand succès, mais aîné après la chute de Troie, c'est-à-dire arrivant quelque part dans le Latium. Il me semble que c'est l'Énéide, ça, mais là encore, mes souvenirs d'école sont bien loin. Le film était un péplum façon yogourt, franco-yougo-italien. Ma foi, ça fait des goûts un peu bizarres, et évidemment, dans la distribution, il en était de même, puisque aux côtés de Steve Reeves, on retrouvait Gianni Garco, qui doit être yougoslave, et il n'y avait pas vraiment d'acteur français. Le film il était signé de Giorgio Rivalta, mais ça n'a aucune importance. Ça s'appelait Les Conquérants Héroïques. Ça, j'ai peut-être oublié de le dire. La légende d'aîné en italien serait pourtant été plus claire. Une musique de Giovanni Fusco dans 24 notes secondes. Ah ben on laisse la musique se dérouler jusqu'au bout dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale signée Giovanni Fusco des Conquérants Héroïques, Giorgio Rivalta et surtout Steve Reeves dans le rôle d'aîné, aîné de Le Retour. Il revient et après la guerre de Troie, vraiment, il n'est pas très content. Après donc ce bref passage péplomesque, eh bien nous allons revenir à Antonioni. Vraiment, c'est le jour et la nuit comme... dirait quelqu'un que j'aime, et on va rester donc avec Monica Vitti, puisque c'est encore elle l'héroïne du film que nous allons maintenant évoquer musicalement. Un film qui fut le premier film en couleur d'Antonioni, ça s'appelait Le Désert Rouge, donc c'était bienvenu. Et pendant le tournage, le film s'appelait même Bleu Ciel et Vert, Celeste et Verde. Autant dire qu'Antonioni avait souhaité pour son premier film en couleur s'approprier la couleur à son univers. La petite histoire raconte même qu'il avait fait teindre de l'herbe pour qu'elle ait plus l'air d'herbe. En fait, c'était Antonioni, il n'y a rien à dire. Lui, il savait, nous suivons. Le scénario était signé, alors ça je voulais l'évoquer puisqu'il avait signé plusieurs scénarios d'Antonioni et qu'il en signa d'autres après, notamment pour Andrei Tarkovski, Tonino Guerra. Et de temps en temps, il faut aussi rendre hommage non seulement aux musiciens, 24 notes secondes est là pour ça, mais aussi à d'autres collaborateurs. Et aux côtés de Monica Vitti, c'était un choix assez surprenant, on retrouvait Richard Harris, qui n'avait pourtant rien d'italien, encore moins d'antonionesque, mais ma foi, le film racontait l'errance d'une femme, comme souvent chez Antonioni, en l'espèce Giuliana, alias Monica Vitti, mal remise d'un accident de voiture et qui donc découvre le monde tel qu'il est pour Antonioni, c'est-à-dire vain, sans âme et sans espoir. Bon, c'était pas rigolo, mais c'était quand même une très belle musique. On va écouter un extrait de cette bande résinage, Il Deserto Rosso, dans 24 notes secondes. Il ne faut pas s'y tromper, c'est de la musique un peu entraînante, mais pour un film Antonioni, donc on pouvait imaginer la scène, on en retrouvait des semblables dans la nuit, notamment des bourgeois qui s'ennuient copieusement, ou des hauts bourgeois même, qui s'ennuient copieusement au cours de fêtes très arrosées, avec des filles sublimes et fort bien habillées, de la musique qui évidemment n'est là, comme souvent la musique, que pour créer une dissonance avec le vide intérieur des personnages et leur absence de perspective. Donc l'occasion d'avoir éprouvé la palette de Giovanni Fusco, juste évoquée bien sûr. On pourrait aussi citer les films qu'il tourna, qu'il composa pardon, pour Alain René, Hiroshima mon amour, excusez du peu, en 1959 et La guerre est finie avec Yves Montand, sauf erreur de ma part, tourné en 1966. On pourrait aussi évoquer ses collaborations avec d'autres grands réalisateurs italiens qu'Antonioni, notamment les frères Taviani et aussi Moro Bolognini. Bref, une carrière trop brutalement interrompue, pardonnez-moi, en 1968. Vous l'avez sans doute calculé, l'homme n'avait que 62 ans et sans doute aurait pu continuer longtemps à entretenir cette espèce de pas de deux entre les films très commerciaux et des films beaucoup plus sophistiqués, dirons-nous. On va terminer avec les premiers en écoutant spécial dédicace un extrait de la bande originale d'un film que je n'ai pas vu, mais par contre le feuilleton, lui, je m'en souviens bien. Ça s'appelait Sandokan, le tigre de Bornéo. Le film, il fut tourné par Umberto Lenzi en 1963. Et ça raconte l'histoire de Sandokan. Et ben voilà, mais quand j'étais petit, je regardais Sandokan, le feuilleton Na. Donc on va en écouter un extrait de la bande originale de ce film. À Sandokan, c'était Steve Reeves. Mais ça, vous le savez maintenant, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, arrivederci.